Chapitre 15. Il regarde un instant la clé. Subjugué. Est-il imaginable qu'un objet aussi minuscule, moins de 3 cm, aussi plat qu'une allumette, contienne les secrets d'une vie entière? On croit qu'une vie tient dans un cercueil, ou même dans une urne funéraire, mais en réalité, elle peut se résumer à un dé à coudre, y compris en y stockant toutes les photos de cette vie, tous les films, toutes les conversations, tous les mots. Avec une infinie précaution, il insère la clé dans l'ordinateur portable. Personne ne l'a vu voler la clé dans le sac à main. Personne ne pourrait le soupçonner. Chaque habitant du village, à un moment donné, aurait pu se servir. Presque tout le monde est passé au moins une fois dans le cabinet médical. Dès qu'il clique sur l'icône principale, il retient une exclamation de surprise. Deux sous-dossiers sont apparus. Séance Madi Libéry, 2010-2020. Séance Esteban Libéry, 2003-2010. La clé USB ne contient pas seulement l'enregistrement des séances de psychothérapie de Madi, mais également celle d'Esteban. Pourquoi sont-elles enregistrées sur la même clé? Qui était le psy d'Esteban quand il était petit? Cela ne peut pas être le docteur Kuning. Il exerce en Normandie. Et Esteban habitait le Pays Basque. Il réfléchit un long moment, puis décide de cliquer sur le second dossier. Séance Esteban Libéry, 2003-2010. Des dizaines de fichiers audio alignés sur 3 colonnes occupent tout l'écran. Esteban était suivi par un psy chaque semaine pendant 7 ans. Il calcule rapidement dans sa tête. Cela doit représenter plus de 300 fichiers. Par lequel commencer? Il fait glisser la flèche, hésite, et finit par s'arrêter sur le 15-3-2004. Esteban avait donc 4 ans. Deux nouveaux clics. Le fichier s'ouvre aussitôt, trop vite. Il a juste le temps d'appuyer sur pause avant que le son explose. Ouf. Le volume de l'ordinateur était réglé au maximum. La voix d'Esteban aurait résonné dans toute la maison. Il pousse un silencieux soupir de soulagement, jette un regard autour de lui, guette le moindre bruit pour être certain que personne ne peut le surprendre, puis branche le casque. Il vérifie une nouvelle fois que la porte de la pièce est fermée. Quand il aura le casque sur les oreilles, il se sera plongé dans le récit et plus rien d'autre ne comptera autour de lui. Il sera aussi vulnérable qu'un lézard quand il change de peau. Ou qu'un serpent. Un clic. Les deux barres redeviennent triangles. La voix grave et posée du psychiatre retentit, comme s'il venait d'entrer dans la pièce, ou plus directement, dans son cerveau.
Bonjour Esteban. Kaisho, doctoré.
Il comprend immédiatement qu'Esteban s'amuse à parler en basque. Cela doit vouloir signifier quelque chose comme « Bonjour docteur ».
Esteban, tu te rappelles? La semaine dernière, tu devais me parler d'un souvenir. D'un souvenir auquel tu repenses souvent, qui parfois t'empêche de dormir. Je sais que c'est un souvenir qui te fait peur, que tu voudrais oublier. Mais justement, pour qu'il sorte de ta tête, il faut que tu me le racontes. Tu comprends? Il faut que tu le regardes en face, pour que ce soit toi qui lui fasse peur. Tu vas y arriver? Oui, doctoré.
Il y a presque du défi dans la voix d'Esteban.
Alors vas-y, je t'écoute. Je vais essayer de t'interrompre le moins possible. C'était l'été. J'étais encore petit, plus petit qu'aujourd'hui. On était monté en haut de la rune par le petit train. Comme il y avait la queue pour redescendre, maman a dit « on n'a qu'à y aller à pied par le chemin ».
C'est ce qu'on a fait. Mais à un moment, j'en ai eu marre de marcher. Alors, pour que j'arrête de chouiner, comme dit maman, elle m'a proposé un jeu.
La voix d'Esteban est de moins en moins assurée. Ses tâtonnements, ses peurs, tout transpire dans les écouteurs. Il ferme les yeux. Il est quelque part entre le sommet de la Rune et la côte basque, sur ce paisible sentier de randonnée où gambadent les touristes et les chevaux sauvages. Avec Esteban. Un, deux, trois. Compte pas si vite, maman! Esteban s'éloigne le plus silencieusement possible sur la pointe des pieds. Triche pas! Regarde pas! Esteban la surveille quand même. Maman a posé ses deux mains sur ses yeux, mais elle peut écarter les doigts. Il marche encore tout doucement pendant quelques pas, puis dès qu'il a atteint les grosses pierres, il se met à courir. 11, 12, 13. Maman a dit qu'elle compterait jusqu'à 50 et qu'après elle crierait « J'arrive !» qu'il ne devait pas s'éloigner aussi. Il regarde autour de lui pour chercher une cachette. Dans l'herbe ? Impossible. Elle est aussi rase que le tapis vert de sa chambre. Les troupeaux de chevaux poilus ont dû tout brouter. Derrière les rochers ? Non. Trop facile. Il lève les yeux vers le grand arbre devant lui. Avec un peu de courage, il pourrait s'accrocher au tronc et atteindre les premières branches, puis d'autres plus haut. Il hésite un peu. Non, trop dangereux. 30, 31, 32. La voix de maman est de plus en plus lointaine, mais il doit se dépêcher. Il regarde autour de lui pour trouver une idée. Il pourrait passer de l'autre côté de la petite rivière. Dans les dessins animés, c'est comme ça qu'on échappe aux chiens ou aux loups. Sinon, il vous repère à l'odeur. Maman aussi pourrait le repérer à l'odeur. Elle dit toujours qu'il sent bon, qu'il sent le bébé après le bain. Même qu'il n'aime pas ça. Pas le bain, mais qu'on lui dise qu'il sent le bébé. Il arrive dans un champ. Il n'en croit pas ses yeux. Il n'y a aucun endroit pour se cacher. L'herbe n'est toujours pas assez haute. Celle-là a été mangée par les vaches. Il y en a au moins 10 devant lui. Une vache, ce n'est pas dangereux, il le sait. Mais quand même, leurs cornes, leurs sabots. Il doit trouver une cachette un peu plus haut, en longeant le fil barbelé sans le toucher, on ne sait jamais. Des fois, il y a de l'électricité.
50 ! J'arrive !
Il a entendu maman très loin. Il doit se décider. Elle a fini de compter et il n'a encore aucune cachette. Vite. Il se met à courir au bord du fil de fer, en faisant attention de ne pas se griffer. Il se retourne de temps en temps. C'est trop nul. Si maman arrive, passe la rivière, elle va le repérer tout de suite, aussi facilement que s'il se promenait au milieu d'un terrain de foot. Il tourne la tête dans tous les sens. Ça lui donnerait presque envie de pleurer. Il se retient d'appeler maman, de crier « Stop ! C'est pas du jeu, on recommence. Tu comptes jusqu'à 100 cette fois. » Quand il les voit. 5 petites cabanes, alignées, en contrebas du champ. On dirait des niches, mais trop petites pour que des chiens puissent y dormir. Ou alors des grosses boîtes aux lettres. En tous les cas, c'est la cachette idéale. Plus il s'approche, et plus il en est certain. Il y a juste la place, sous le plancher, pour se faufiler. En rampant bien au fond, maman ne pourra pas le repérer. Esteban se retourne une dernière fois. Personne à l'horizon, sauf les vaches. Mais elles ne vont pas cafeter. Il fonce. Au moment où il se rapproche des niches, il aperçoit 2 ou 3 abeilles. Il s'en fiche. Maman lui a appris que les abeilles et tout ce qui vole et bourdonne ne piquent pas si on ne les embête pas. Et puis, il n'a pas le temps de regarder si c'est une abeille, un frelon ou une guêpe. Maman va arriver. Il plonge à la façon d'un rugbyman. Direct, sous les niches. un roulé-boulé comme sur le canapé, et le voilà dos contre terre, la tête sous des planches, allongé, à l'abri, les yeux tournés vers l'entrée du champ.
Esteban ?
C'est maman qui l'appelle. Il l'entend, mais ne la voit pas encore. Son cœur bat très fort, autant que quand il joue à la guerre avec les copains. Il essaie de s'arrêter de respirer pour bien écouter. Il croit d'abord que c'est sa respiration qu'il continue d'entendre, même s'il a bloqué sa bouche et son nez, comme si ses poumons sifflaient. Il manque d'air et relâche tout. Toujours aucune trace de maman. Elle n'a sans doute pas osé franchir la rivière. L'odeur remplit alors ses narines, une odeur qu'il aime bien, une odeur sucrée, une odeur de gaufres et de petit déjeuner. L'odeur du miel, il la reconnaît. D'où peut-elle venir ? Pas de ces deux abeilles. Pour la première fois, il lève les yeux vers les planches au-dessus de sa tête, à quelques centimètres. Cette fois, le cœur d'Esteban se bloque pour de vrai. Il les voit, comme si elles le touchaient, à travers le grillage cloué entre les planches. Des centaines, peut-être des milliers d'abeilles, enfermées dans les 5 minuscules prisons de bois qui sentent le miel.
Esteban !
Maman arrive tout au bout du champ. Il la voit. Esteban sait qu'il ne doit pas rester là, qu'il doit sortir le plus doucement possible, s'éloigner, sans effrayer les insectes qui grouillent au-dessus de sa tête, puis courir seulement quand il sera loin. Il le sait. Mais il ne peut pas bouger. Pétrifié. S'il remue juste un pied ou un doigt, elles vont le repérer. Personne ne peut survivre à un nuage d'abeilles en colère, pas même un ours, pas même un loup. Il n'entend plus que leur bourdonnement. Il ne sent plus que cette atroce odeur de miel. Il va mourir ici. Il en est sûr. Maman ne le reconnaîtra pas. Sa tête sera gonflée de milliers de piqûres.
Esteban !
Maman n'est plus si loin, mais elle ne le trouvera jamais s'il ne lui répond pas. Et s'il lui répond, tant pis. Esteban ne saura jamais qui a pris la décision. Ses jambes, sa bouche, son cœur, son cerveau, ou tous à la fois. Il crie. Il crie à s'en tordre le ventre.
Maman !
Et sort de sous les ruches, trop vite, trop pressé, en se cognant la tête, les bras. Il rampe tout de même, mais les insectes affolés sont déjà sortis. Le ciel basque est soudain devenu gris. Esteban s'est relevé, et c'est comme une pluie qui s'abat sur lui. Une pluie d'ailes et de dards, une averse de poignards qu'il traverse, en hurlant, en courant droit sur le fil de fer. Il s'y empale. Sa chemise s'y déchire, puis sa main, puis sa jambe, puis toute sa chair. Il est toujours poursuivi par quelques abeilles, parmi les plus rancunières. Les dernières piqûres sont les plus meurtrières.
« Maman ! Esteban ! »
Il court encore. Les bras de maman sont là. À quelques mètres. Plus rien ne peut lui arriver. Même s'il a l'impression que sa tête va exploser. Même si toute sa peau le démange et qu'il voudrait pourtant qu'on lui coupe les bras pour s'empêcher de se gratter. Même si sa dernière pensée, avant de perdre connaissance, est un dernier minuscule point noir dans le ciel. Et une terrifiante odeur de miel.
« Tu as été très courageux, »
dit le psychiatre. Une fois qu'Esteban a terminé son récit.
Ta maman m'a raconté la suite, parce qu'évidemment, tu ne t'en souviens plus. Les secours sont arrivés très vite. Tu as été emmené à l'hôpital de Bayonne. Ta maman a eu très peur, au moins autant que toi. Mais sois rassuré. Toutes tes piqûres disparaîtront. Tu ne garderas qu'un vilain souvenir du miel et des abeilles. On dit Erléac !
Fanfaronne Esteban en imitant avec ses lèvres le bourdonnement d'une abeille. La vibration se propage dans les écouteurs, telle une radio dont on perd le signal. La séance est pratiquement terminée, Plus que 30 secondes, d'après le curseur qui défile sur l'écran. Il baisse le son sur son ordinateur, tout en regrettant de n'avoir qu'un fichier audio. Il aurait voulu avoir au moins une image pour voir à quoi ressemblait ce psy, sans doute installé à Saint-Jean-de-Luz. Il a beau chercher, il ne trouve aucune indication sur les dossiers. Comment identifier une voix ?
Je sais parler basque aussi bien que toi, répond avec calme le psy. Mais à partir de maintenant, tu vas devoir être courageux. Depuis 5 mois, il faisait trop froid. Aucune abeille ne sortait. Mais les belles journées reviennent, et avec elles les fleurs à polliniser. Dès que tu sortiras dehors, elles seront là, partout, même dans la ville, même au bord de la mer.
Pas grave !
Crâne Esteban.
J'irai me cacher dans la mer ! Les abeilles ne savent pas nager !
Tu aimes l'eau, n'est-ce pas ? Tu n'as pas peur d'elle ? Du vent ? Des vagues ?
Non, jamais ! Parce que les vagues, même les plus grosses, elles te ramènent toujours sur la plage !